Dr. Dave Mathewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 7, Introduction à Matthieu. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt. Ici le Dr. David Mathewson qui présente l'histoire et la littérature du Nouveau Testament, Conférence 7, L'Introduction à Matthieu. Très bien, allons-y accueillir. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est enfin commencer à aborder le texte spécifique du Nouveau Testament lui-même et nous suivrons l'ordre canonique en commençant par Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Nous n'allons pas suivre l'ordre dans lequel ils sont écrits, mais l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Nouveau Testament. Nous allons donc commencer aujourd'hui par examiner Matthieu, et avant de le faire, commençons par la prière. Père, nous nous tenons devant toi pour écouter ta parole pendant que nous l'analysons avec notre esprit, je prie pour que Seigneur nous continuions à t'entendre nous parler à travers elle, reconnaissant que ce que nous avons est un document qui est produit et nécessite doit être compris à la lumière de son contexte historique d'origine, mais il s'agit pourtant d'un document qui continue de fonctionner comme la parole de Dieu pour votre peuple aujourd'hui. Donc, dans cet esprit, nous apportons tout ce que nous sommes, nos capacités de réflexion et nos capacités analytiques, mais aussi, nous désirons entendre le texte comme votre parole. Et je prie pour que nous puissions comprendre un peu ce que cela signifie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Très bien, avant d'examiner les évangiles spécifiques, et en particulier l'évangile de Matthieu, comme nous l'avons dit, il est important de comprendre qu'en lisant le Nouveau Testament, l'arrière-plan principal, ou nous pourrions dire le premier plan, pour entendre et lire le Nouveau Testament est sans aucun doute l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, malgré le mot nouveau, n'est pas quelque chose de discontinu avec l'Ancien Testament, mais nous avons dit plus tôt dans le semestre que le Nouveau Testament se situe en relation avec l'Ancien, non pas comme quelque chose de supérieur, ni comme quelque chose de tout nouveau, ou du jamais vu auparavant, mais il est en relation avec l'Ancien en tant que promesse et accomplissement. Le Nouveau Testament doit être considéré comme le point culminant et l'accomplissement de l'histoire commencée dans l'Ancien Testament. Ce n'est donc pas comme si l'histoire de l'Ancien Testament suivait son cours et était terminée, et qu'ensuite Dieu commençait à raconter une nouvelle histoire centrée sur Jésus-Christ, l'Église et ses apôtres, etc., mais au lieu de cela, le Nouveau Testament est simplement une continuation du dernier chapitre de l'histoire qui a commencé dans l'Ancien Testament. Il est donc important d'avoir peut-être juste un très, très bref résumé de l'histoire que, j'en suis convaincu, Matthieu aurait particulièrement supposé en écrivant son évangile. Alors, quelle histoire se serait-il racontée sur la base de l'Ancien Testament? La première partie de l'histoire est qu'Israël est toujours en exil à cause du péché. Si vous vous souvenez de votre étude de l'Ancien Testament, à cause du péché et de l'idolâtrie, Dieu a permis aux nations, principalement les Assyriens et les Babyloniens, de venir et d'emmener Israël, le peuple de Dieu, et de l'emmener en exil en guise de punition pour leurs péchés. Et bien qu'ils soient retournés physiquement au pays, il restait au moins de nombreux Juifs qui se considéraient toujours en exil. Et cela serait devenu encore plus important maintenant que l'Empire romain a tout repris. Rappelez-vous que tout ce que nous lisons dans le Nouveau Testament est écrit dans le contexte de la domination romaine. Les Romains gouvernent tout. Ils sont la puissance mondiale. Ainsi, la plupart des Israélites se seraient raconté une histoire basée sur l'Ancien Testament selon laquelle ils étaient toujours en exil, attendant d'en être délivrés à cause de leurs péchés. La deuxième partie de l'histoire est donc que, bien qu'Israël soit en exil, Dieu interviendra un jour bientôt pour arranger les choses, tout remettre en ordre, pour sauver son peuple, Israël, et le libérer. Autrement dit, Dieu tiendrait ses promesses, les promesses tant attendues qu'il avait faites à Abraham, qu'il avait faites à David, les promesses que les prophètes avaient réitérées dans l'Ancien Testament, tout cela s'accomplirait un jour lorsque Dieu interviendrait pour établir les choses sont bonnes, non seulement parmi Israël mais dans le cosmos tout entier. Et finalement, de cette manière, Dieu apporterait aussi le salut au monde entier. Ainsi, c'est grâce à la restauration d'Israël en tant que peuple de Dieu que, conformément à la promesse que Dieu a faite à Abraham, rappelez-vous ce que Dieu a dit à Abraham, « Je vous bénirai et je ferai de vous une bénédiction, et finalement toutes les nations de la terre sera bénie à travers vous. » Ainsi, grâce à la restauration d'Israël, le peuple de Dieu, le salut pourrait alors s'étendre à la terre entière. Et donc, c'était l'histoire qui attendait de se réaliser. Ce que les quatre évangiles ont en commun, c'est qu'ils découvrent que la conclusion de cette histoire et son accomplissement ont lieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Commençons donc par le premier évangile, l'évangile d'un publicain. Alors, tout d'abord, qui est l'auteur de Matthieu? Ce que je veux dire à propos de la paternité de Matthieu se rapporte en quelque sorte aux quatre évangiles, et c'est à ce moment-là que vous ouvrez vos Bibles anglaises et que vous trouvez les titres, l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc. Matthieu, Marc et Luc n'ont pas écrit cela à l'origine. Habituellement, les évangiles étaient anonymes, c'est-à-dire qu'un récit était anonyme. Vous n'aviez pas le nom de celui qui l'écrivait quelque part dans le texte, comme c'est le cas pour les lettres de Paul où il s'identifie. Mais les évangiles étaient techniquement anonymes. Ils ne mentionnaient pas le nom de l'auteur. Ainsi, ces titres, selon Marc, selon Matthieu, l'évangile selon Jean et l'évangile selon Luc, étaient en réalité des ajouts ultérieurs par l'Église. Alors que l'Église rassemblait ses évangiles et les reconnaissait comme écriture, comme canon, comme écriture canonique, elle attribuait ses titres aux évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cependant, sans entrer dans les détails, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiables. Il y a de très bonnes raisons de faire confiance à ces titres en tant qu'indicateurs fiables de l'identité de leurs auteurs. La plupart de ces titres furent attachés assez tôt aux évangiles. Ce n'est pas comme si 3, 4, 5 ou 600 ans plus tard, ils s'étaient attachés. Ils ont en fait été attachés très tôt dans certaines des premières preuves dont nous disposons concernant les pères de l'Église. Ils attribuent cet évangile à Matthieu ou l'évangile à Marc. Nous avons déjà dit que Marc, la tradition veut que Marc était connu comme l'interprète de l'évangile de Pierre. Ainsi, l'évangile de Marc est le reflet de l'enseignement et de la prédication de Pierre. Alors, je veux juste que vous sachiez que les titres que vous avez dans vos évangiles n'ont pas été écrits par les auteurs des évangiles. Au lieu de cela, ils ont été attribués plus tard aux évangiles par l'Église. Mais il y a de bonnes raisons de prendre au sérieux ces récits précis de l'auteur des évangiles. Matthieu, comme le titre l'indique, Matthieu, vous l'avez lu dans les évangiles, Matthieu était un collecteur d'impôts que Jésus a appelé à être l'un de ses disciples, l'un de ses disciples. Maintenant, quand nous lisons Matthieu, c'est une des caractéristiques clés de Matthieu, et je n'ai pas l'intention d'en parler avec tous les évangiles ou tous les écrits. Je n'aime pas les grandes lignes juste pour le plaisir de décrire un livre. Parfois, il nous aide à avoir en quelque sorte un résumé du contenu de chaque section. Mais ce qui m'est le plus utile dans les plans, c'est lorsqu'il vous donne une idée de la structure et du développement du livre. Que dit une ébauche de la manière dont le livre est construit et dont il se développe? L'une des principales caractéristiques structurelles de Matthieu est que Matthieu, contrairement aux autres évangiles, et encore une fois, ce que nous voulons faire en parcourant les quatre évangiles, je suis principalement intéressé par ce qui est distinct et unique dans chacun des évangiles. Évangile. Et par là, je ne veux pas dire que ce soit la seule chose importante, ce qui est unique. Mais une façon de considérer Matthieu, Marc, Luc et Jean est de se concentrer sur ce qui les distingue les uns des autres. Ainsi, alors que nous travaillons sur Matthieu, nous voulons savoir ce que Matthieu inclut de distinct ou ce qu'il a sur lequel il souligne et qui n'est pas dans les trois autres évangiles ou du moins pas dans la même mesure que Matthieu. L'une des caractéristiques uniques est la façon dont Matthieu a rédigé son évangile. Autrement dit, dans le plan de Matthieu, Matthieu a rassemblé son matériel de manière à mettre l'accent sur cinq discours principaux ou cinq blocs principaux des enseignements de Jésus. Et il ressemble à ça. Le premier bloc de discours, le premier principal, si vous avez une Bible en lettres rouges, l'intégralité de ces sections serait en lettres rouges. Je ne parlerai pas pour l'instant de ce que je pense des ajouts de lettres rouges. Vous pourrez me le demander plus tard. Mais ceux-ci sont censés représenter le fait que Matthieu semble, contrairement aux autres évangiles, présenter Jésus comme enseignant de longs blocs de discours à cinq reprises. Le premier vous est assez connu, le sermon sur la montagne. L'autre au chapitre 13 est une longue série de paraboles que Jésus a enseignées pour expliquer ce que Jésus vient enseigner sur le royaume de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Et si Jésus enseigne le royaume de Dieu, pourquoi les Romains, pourquoi César est-il toujours sur le trône? Pourquoi les Romains sont-ils toujours aux commandes? Jésus raconte une série de paraboles qui répondent à cette question. Et puis, pour passer au dernier, le dernier est le cinquième des chapitres 23 à 25, c'est l'enseignement de Jésus sur la fin des temps, lorsque Christ reviendra pour juger Israël, pour juger les nations, pour établir son royaume dans quelque chose souvent appelé le discours d'Olivet ou le discours eschatologique. Mais un long enseignement sur le retour de Jésus pour juger le monde et apporter le salut à ses disciples. Et il y a une série de paraboles, vous connaissez probablement la parabole des brebis et des chèvres. Cette parabole se produit dans ce bloc d'enseignement. Ainsi, Matthieu présente son évangile selon cinq blocs d'enseignement. Et que se passe-t-il à la fin de chacun de ces cinq blocs de discours, lorsque vous lisez Matthieu, une chose qui indique que Matthieu fait cela intentionnellement est à la fin de chacun de ces cinq blocs de discours, Matthieu termine en disant que lorsque Jésus a terminé ses paroles, ou quand Jésus a fini de dire ces choses. Et puis Matthieu se lancera dans une autre section et inclura éventuellement un autre long discours. Et puis à la fin du chapitre 10, quand Jésus a fini de dire ces choses. Et puis un autre bloc d'enseignement, un autre bloc de discours, et quand Jésus a fini de dire ces choses. Ainsi, Matthieu a clairement l'intention de présenter Jésus comme enseignant à cinq reprises dans des blocs de discours assez longs. Il y a eu diverses suggestions pour expliquer pourquoi. Une personne a dit que ces cinq blocs de discours représentent Jésus enseignant ou présentant une nouvelle loi comme Moïse. Souvenez-vous des cinq premiers livres de la Bible et, espérons-le, vous vous souvenez du mot Pentateuque, le terme faisant référence aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Certains diraient que ces cinq blocs visent à représenter Jésus comme un nouveau porteur de la loi comme Moïse. Tout comme nous avons cinq livres de Moïse, nous avons maintenant cinq enseignements de Jésus. Ce n'est probablement pas tout à fait exact. Je ne sais pas si Matthieu essaie de présenter Jésus comme un nouveau donneur d'une nouvelle loi comme Moïse. Je pense que c'est le cas, comme nous le verrons, il présente Jésus comme quelqu'un comme Moïse. Mais à tout le moins, on peut dire que Matthieu entend présenter Jésus comme un enseignant, comme celui qui vient enseigner et instruire en présentant Jésus comme enseignant dans ses cinq blocs de discours. Et encore une fois, vous découvrirez chez Jean que Jean a également de longs enseignements sur Jésus, mais aucun des autres évangiles n'est structuré selon ces cinq blocs principaux de discours, ces longs enseignements de Jésus. C'est donc un élément clé du livre de Matthieu. Quand nous commençons à regarder le texte de Matthieu lui-même, quand nous commençons à regarder le livre de Matthieu, et ensuite nous élargirons plus tard et nous demanderons, pourquoi diable Matthieu a-t-il écrit cet évangile de toute façon? Encore une fois, Matthieu s'est-il simplement assis un jour et a-t-il décidé qu'il avait besoin d'écrire une vie du Christ ou quelque chose que les étudiants du XXIe siècle à l'université pourraient étudier dans l'enquête sur le Nouveau Testament, ou y avait-il une raison spécifique, peut-être, ou des raisons pour lesquelles Matthieu l'a ressenti? Nécessaire d'écrire cet évangile. Je ferai quelques suggestions à ce sujet après avoir examiné certains détails. Mais tout d'abord, regardez le tout premier verset de Matthieu, car il nous en dit long sur ce qu'il a l'intention de faire et sur la façon dont il a tendance à répondre à l'histoire complète. Rappelez-vous l'histoire que les gens se seraient racontée, Israël est toujours en exil à cause du péché, mais Dieu interviendra un jour pour redresser le monde, principalement en sauvant son peuple Israël, en tenant ses promesses à Abraham, à David, tout son peuple. L'Alliance promet avec Israël que Dieu arrangera les choses et qu'à travers cela, Dieu sauvera finalement le monde entier. Maintenant, comment Matthieu répond-il à cela? Commençant par le chapitre 1 et le verset 1, un récit de la généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Cette introduction est importante pour au moins deux raisons. Premièrement, Matthieu présente le sujet de sa biographie gréco-romaine. Il s'agira de Jésus-Christ, le Messie. Le terme Messie, comme vous le savez, le terme Messie remonte à la promesse que Dieu a faite à David. Dieu a promis à David qu'il y aurait un roi qui s'assiérait sur le trône et régnerait sur Israël, un fils de David qui viendrait, et dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, Dieu a promis que le royaume de David n'aurait pas de fin. Il y aurait toujours quelqu'un assis sur le trône, et les prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel l'ont compris. Ils comprenaient qu'il y aurait un moment où Dieu reviendrait pour délivrer son peuple, et cela inclurait un fils dans la lignée de David assis sur le trône. Maintenant que Matthieu dit qu'il s'agit d'un livre sur le Messie, il relie immédiatement son livre aux promesses de l'Ancien Testament d'un futur roi messianique, qui régnerait désormais sur Israël. Maintenant, le problème que nous allons devoir examiner un peu plus tard, le problème est, comment est-ce possible? Comment cela peut-il se passer avec César sur le trône? Comment est-ce possible alors que Rome est responsable de tout? Comment Jésus, ce Jésus de Nazareth, comment peut-il être ce Messie, ce roi attendu, en réalisation de ses attentes de l'Ancien Testament, alors qu'elles semblent contredites par la réalité? Parce que Rome est aux commandes et que César est sur son trône. Ainsi, Jésus est le Messie, le fils de David, et cela relie clairement cette personne, Jésus-Christ, aux promesses de l'Ancien Testament concernant la venue d'un roi davidique. Encore une fois, en commençant par 2 Samuel, la promesse que Dieu a faite à David, qu'il y aurait toujours un fils assis sur son trône, que son trône durerait pour toujours, dans les prophètes. Vous vous souvenez du texte que nous citons au moment de Noël, un fils naîtra, son nom sera Dieu puissant, merveilleux conseiller, etc., etc., mais il continue et dit qu'il s'assiera sur le trône de David et gouvernera les nations. Dans la justice pour toujours. Ainsi, les prophètes anticipaient un jour où les promesses de Dieu, selon lesquelles un roi à venir dans la lignée de David finirait par émerger, et maintenant l'auteur de Matthieu indique clairement que ce Jésus est maintenant la réponse à cette question ou l'accomplissement de ses promesses. Mais il y a plus encore, non seulement il est le fils de David, en accomplissement des promesses de l'Ancien Testament d'un roi davidique, mais il est aussi le fils d'Abraham. Maintenant, pourquoi est-ce important? Pourquoi pas le fils de Moïse, ou le fils d'Isaac, ou le fils de Daniel, ou le fils d'Isaïe ou de Jérémie? Il existe d'autres personnages importants dans l'Ancien Testament. Pourquoi Abraham? Qu'entend indiquer Matthieu en disant que Jésus est le fils d'Abraham? Et alors? Ou pourquoi pas Noé? Ou Adam, qui aurait pu remonter jusqu'au début? Pourquoi Abraham? Que savons-nous d'Abraham dans l'Ancien Testament qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi Matthieu voudrait présenter Jésus comme le fils d'Abraham? Dieu avait conclu une alliance avec Abraham, et sur quoi portait cette alliance? Vous avez tout à fait raison. Il serait une grande nation, Abraham serait béni, et une grande nation naîtrait de lui, et vous avez raison, la descendance serait plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable des mers. En d'autres termes, la nation israélite émergerait de cette seule personne, Abraham. Mais il y a plus. Quoi d'autre en plus de cela? Je pense que s'étendre dans le monde, c'est être une grande nation de Dieu que Jésus lui-même était censé étendre dans le monde pour en quelque sorte réformer la nation. Très bien, donc en fin de compte, vous avez tout à fait raison, toutes les nations de la terre seraient bénies à travers Abraham. Ainsi, Abraham est promis dans Genèse 12, c'est là que commence l'alliance abrahamique, comme vous l'avez mentionné. Au chapitre 12, Dieu promet qu'Abraham fera de lui une grande nation et un grand nom, mais qu'en fin de compte, toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. Ainsi, en appelant Jésus le fils d'Abraham, non seulement Jésus est la réponse au salut des Juifs, mais rappelez-vous notre histoire selon laquelle les Juifs sont toujours en exil et attendent le moment où Dieu interviendra pour arranger les choses et sauver les gens. Non seulement Jésus-Christ répondra à cela et sera la solution aux problèmes juifs de leur péché et de leur exil, mais maintenant, en reliant Jésus à Abraham, Jésus sera également le moyen par lequel le salut s'étendra au monde entier. Si Matthieu avait juste dit que Jésus est le fils de David, cela aurait facilement pu être compris, eh bien, voici le Messie juif venu pour sauver son peuple Israël. Mais en le liant à Abraham, Jésus est désormais celui qui sauvera non seulement Israël, mais aussi toutes les nations de la terre, y compris les gentils. Et l'une des choses que nous allons voir très rapidement à propos de Matthieu, c'est que Matthieu, plus que tout autre évangile, décrit systématiquement Jésus comme un sauveur des gentils, et pas seulement de la communauté juive. Ainsi, le tout premier verset est important pour comprendre le reste du récit, à savoir que Matthieu a l'intention de décrire Jésus comme le fils de David, le roi, pas seulement pour Israël, pas seulement en accomplissement des promesses faites à Israël, mais en accomplissement de les promesses faites à Abraham selon lesquelles le salut irait éventuellement jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations de la terre. Ainsi, Jésus est le Messie non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Maintenant, la généalogie qui suit, rappelez-vous que le verset 1 commence un récit de la généalogie. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous voudriez naturellement sauter cela et découvrir où commence le véritable récit. Mais cette généalogie était de la plus haute importance pour un certain nombre de raisons, principalement parce qu'elle démontrait que Jésus avait légalement le droit de s'asseoir sur le trône de David. La généalogie tente, dont la fonction principale est de démontrer que Jésus a le droit légal de s'asseoir sur le trône de David en tant que fils légal adoptif de Joseph, qui était biologiquement un descendant de David. Ainsi, Jésus, même s'il ne l'est pas physiquement, comme nous le verrons dans Matthieu 1 et 2, Jésus n'était pas physiquement un fils de Joseph. Marie conçoit en dehors des relations normales avec Joseph. Jésus n'est pas physiquement et biologiquement un fils de Joseph, mais il l'est légalement lorsque Joseph le nomme. Et donc légalement, Jésus a le droit de s'asseoir sur le trône de David en tant que fils de David, dans la lignée de David. Cette généalogie est donc de la plus haute importance. Même dans sa structure, la généalogie est divisée en trois sections de 14 générations. Cela peut ne pas nous sembler significatif, mais si je comprends bien, le nombre 14 est en fait le nombre des lettres hébraïques du nom David. Encore une fois, Matthieu construit de manière très artistique un argumentaire pour montrer que Jésus est le véritable roi messianique, le fils de David. Mais pas seulement pour les Juifs, à travers Abraham, il est aussi le Messie pour les gentils. Ainsi, la généalogie est très importante pour établir le droit de Jésus à s'asseoir sur le trône de David. Comme je l'ai dit, l'un des traits les plus caractéristiques de Matthieu est l'accent mis sur les gentils. Nous verrons cela dans un instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où Matthieu inclut des références aux gentils répondant à Jésus que l'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Et nous examinerons quelques-unes de ces questions. Oui, c'est peut-être une liste abrégée. Il n'y a rien qui permet de penser que, vous savez, Matthieu devait inclure chaque personne jusqu'au dernier. Il a peut-être intentionnellement structuré cette façon de mettre l'accent sur les trois nombres, 3, 14, encore une fois, pour faire ressortir l'accent mis sur David. Notez également la mention de l'exil dans la généalogie. Jésus est donc venu mettre fin à l'exil. Toutes les histoires qu'Israël se racontait arrivent maintenant à leur accomplissement et à leur conclusion. Par exemple, nous examinerons un exemple spécifique de la façon dont les gentils répondant à Jésus sont inclus dans Matthieu d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais c'est une histoire plutôt intéressante. Dans le chapitre Matthieu, je pense que c'est le chapitre 8 que je veux. Dans Matthieu chapitre 8 ou, ici, chapitre 8, une métaphore juive très courante pour ce qui se passerait lorsque Dieu viendrait restaurer son peuple et sauver son peuple était un banquet. Autrement dit, l'image d'un repas ou d'un banquet était une métaphore courante de ce qui se passerait lorsque Dieu rendrait visite à son peuple, le restaurerait et lui apporterait le salut. Et remarquez dans l'un des enseignements de Jésus, remarquez ce qu'il fait avec cette image d'un banquet. Il dit, quand Jésus l'entendit, il fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, « Voici donc ce que dit Jésus, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et mangeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Maintenant, cette idée venant de l'Est et de l'Ouest, Jésus dit fondamentalement que non seulement les Juifs mais aussi les gentils s'assieront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Cela aurait été impensable pour un juif du premier siècle. Que ce banquet du futur représentant de Dieu restaurant son peuple, il aurait été impensable que quelqu'un d'autre que des juifs puisse s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Jésus envisage maintenant un moment où les gentils, des gens de l'Orient et de l'Occident, viendront à ce banquet que la plupart des Juifs auraient considéré comme étant réservé pour eux. Et maintenant, ce banquet, encore une fois, c'est une sorte de métaphore de Dieu dans le futur venant sauver son peuple et établir son royaume. Il est impensable que quiconque, à l'exception des Juifs, puisse participer à cela. Mais maintenant, Jésus a des gentils assis à table aux côtés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Quelque chose que Matthieu semble vouloir souligner. Et cela se produit à plusieurs reprises tout au long des évangiles. Vous trouvez, comment se termine l'évangile de Matthieu? Cela se termine par la déclaration de Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples, non pas de tous les Juifs ou Israélites, mais de toutes les nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprendre à faire tout ce que je commande. » Ainsi, l'évangile se termine par un appel à évangéliser les nations entières. Autrement dit, ce roi à venir, ce Messie, ce Jésus dans la lignée de David est censé apporter le salut et le sauvetage non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils. Ainsi, l'évangile de Matthieu se termine par un appel à prêcher cet évangile à toutes les nations, pas seulement à Israël. Mais l'un des exemples les plus intrigants d'inclusion des gentils, ainsi que quelques autres choses, est le récit du chapitre 2 des sages, ou mages, venant rendre visite à Jésus. Maintenant, nous avons examiné un peu cela en relation avec l'histoire de Noël, mais encore une fois, c'est une caractéristique qu'aucun des autres évangiles ne possède. Seuls Matthieu et Luc ont une trace de la naissance de Jésus, mais Luc demande au berger de venir rendre visite à Jésus, et Matthieu, chose intéressante, ne le fait pas. Au lieu de cela, Matthieu demande aux sages, ou aux mages, de venir rendre visite à Jésus. Luc ne dit rien à leur sujet. Maintenant, cela ne veut pas dire que Luc ne savait pas pour eux, ou que Matthieu ne savait pas pour les bergers. Tout au plus, cela signifiait que ce n'était vraiment pas pertinent pour leurs objectifs. N'oubliez pas que les auteurs des évangiles sont sélectifs. Ils ne vous donnent pas un récit détaillé de tout ce qui est arrivé à Jésus et de tout ce qu'il a fait et dit. Ils incluent uniquement les informations qui communiquent leur objectif. Ainsi, Matthieu inclut l'histoire des sages ou des mages. Pourquoi a-t-il fait ça? Tout d'abord, il est important de comprendre qui étaient les mages. Les mages étaient considérés comme des astrologues, probablement originaires de Perse ou de Babylone. Autrement dit, ils étudiaient les étoiles. Ils auraient sans doute également eu accès à l'Ancien Testament. Et en relation avec cela, il y a encore une fois des explications sur la façon dont nous pouvons comprendre l'étoile. Peut-être qu'à un moment donné, nous pourrons en parler. Mais je vais maintenant mettre l'accent sur ce que fait l'histoire. Ainsi, les mages suivent cette étoile, ces astrologues, et ils viennent à Bethléem et adorent Jésus. Ce qui est important là-dedans, c'est avant tout que ces mages ne sont pas seulement des astrologues, ils sont également étrangers. Ce sont des gentils. Et on peut presque voir l'intrigue ou la comédie dans le récit. Quand on lit le fait que le premier point d'arrêt des mages était la ville de Jérusalem. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Bethléem se trouvait pratiquement juste à côté de la porte arrière de Jérusalem. C'était une ville plutôt insignifiante. Et c'est intriguant. Je pense que la comédie intentionnelle là-dedans est que ces astrologues babyloniens parcourent un long chemin et sur une longue période pour arriver à Bethléem. Pourtant, il est intéressant de constater que Hérode et les autres habitants de Jérusalem ne sortent même pas par la porte arrière et ne parcourent pas la courte distance jusqu'à Bethléem. Au lieu de cela, Hérode, de manière intéressante, dit aux mages, « Allez trouver cet enfant, et lorsque vous le trouverez, faites-le-moi savoir. » Pourquoi Hérode lui-même ne pouvait-il pas y aller? Bethléem est juste par la porte arrière. Pourtant, ces étrangers, les gentils, parcourent des distances considérables et des périodes de temps considérables pour venir rendre visite à Jésus. Quand, encore une fois, ceux qui savaient mieux, les dirigeants juifs et Hérode, n'ont même pas pris la peine de parcourir la courte distance jusqu'à Bethléem pour adorer Jésus. Alors, encore une fois, Matthieu commence. Matthieu chapitre 2 commence par une histoire de gentils, au lieu de juifs, de gentils, qui viennent adorer Jésus. Cependant, il se passe bien plus dans cette histoire. Et, en fait, je souhaite également inclure les chapitres 3 et 4 dans un instant. Mais il se passe bien plus dans cette histoire avec les mages venant rendre visite à Jésus. Mais aussi, que se passe-t-il juste après? Rappelez-vous, juste après le récit de la naissance de Jésus, Matthieu, comme les autres écrivains, se lance directement dans le ministère adulte de Jésus. Il ne nous dit rien de ce qui s'est passé entre Jésus. Jésus a probablement entre 1 et 2 ans, soit Matthieu 2. Mais ensuite, dans le chapitre suivant, Jésus est un adulte. Ainsi, les auteurs des évangiles, encore une fois, n'essaient pas de nous donner une biographie détaillée de tout ce que Jésus a fait et dit, mais ils sont sélectifs. Maintenant, que se passe-t-il ensuite? Fait intéressant, Jésus. Après Jésus. Après sa naissance à Bethléem, vous vous souviendrez d'un événement intéressant parce que Hérode. Nous reviendrons et parlerons de lui. Parce que Hérode essaie de tuer Jésus et tous les autres petits garçons à Bethléem, les parents de Jésus fuient en Égypte et finissent par revenir. Et puis, la prochaine chose que nous savons, Jésus se lance dans son ministère d'adulte. Et la première chose qui arrive, c'est que Jésus est baptisé dans le Jourdain et ensuite, l'événement suivant, c'est qu'il va dans le désert pour être tenté. Ainsi, Jésus est né. Il fuit Hérode. Il va en Égypte. Il court pour sauver sa vie. Il est conservé en Égypte. Il sort d'Égypte. Ensuite, il commence son ministère d'adulte. Il est baptisé dans le Jourdain. Et puis, il va dans le désert pour être tenté. Maintenant, que devons-nous penser de tout cela? Encore une fois, que fait Matthieu? Tout d'abord, je suis convaincu qu'au chapitre 2, et cela se situe dans le contexte de l'Ancien Testament, du chapitre 2 au chapitre 4, Jésus est présenté comme le nouvel Israël. Maintenant, ce qui est intéressant au chapitre 4, dans le baptême et la tentation de Jésus, remarquez le parallèle. Ce qui s'est passé. Il est intéressant de noter qu'il existe une histoire récurrente qui traverse l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Cela commence avec Adam et Ève, qui ont été tentés et ont succombé à la tentation et ont péché dans le jardin et ont été exilés du jardin d'Éden. Maintenant, Jésus choisit alors la nation d'Israël. Cela rejoint la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il fait sa promesse, l'alliance avec Abraham, qu'il ferait de lui une grande nation. Et c'est la nation d'Israël. Ainsi, Dieu choisit la nation d'Israël. Comme Adam, il choisit Adam pour être son peuple, crée Adam pour qu'il soit son peuple et entre en relation avec eux. Comme Adam, Israël est le peuple de Dieu. Ils sont tentés, ils péchent et eux aussi sont exilés de leur pays. Donc, c'est en quelque sorte le deuxième coup. Si Adam n'a pas réussi à être la personne que Dieu voulait qu'il soit, pour accomplir son intention, alors Dieu a choisi Israël pour accomplir l'intention de sa création qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à réaliser. Mais Israël ne s'en sort pas mieux. Ils ont péché et eux aussi ont été exilés. Alors maintenant, Jésus arrive. Que se passe-t-il dans la tentation? Dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est tenté par Satan. Fondamentalement, là où Adam et Israël ont échoué, Jésus est maintenant tenté, mais il réussit le test. Il ne pêche pas et ne cède pas, mais il réussit le test. Et par conséquent, il est celui qui est capable d'amener Israël, il est capable d'apporter le salut à Israël et à toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui amène l'humanité vers sa véritable destinée. C'est lui qui amène l'humanité à l'intention pour laquelle Dieu l'a créé depuis le chapitre 1 de Genèse. Ainsi, en enregistrant la tentation de Jésus, ce n'est pas seulement une belle histoire sur la façon dont Jésus n'a pas péché et comment Jésus a résisté à la tentation et nous devrions le faire aussi, mais c'est une histoire sur comment. Encore une fois, repensez au fait que Matthieu, l'évangile de Matthieu, est la conclusion de l'histoire commencée dans l'Ancien Testament. Jésus, le cycle qui commence avec Adam tenté et péchant et exilé, Israël tentant, péchant et exilé, Jésus brise le cycle en étant tenté comme Adam et Israël, mais contrairement à eux, il ne cède pas. Ainsi, Jésus est alors qualifié être le vrai Fils. Adam ne l'était pas, Israël l'a gâché, mais Jésus est qualifié pour être le vrai Fils de Dieu et pour apporter le salut à Israël et à toutes les nations de la terre. Ainsi, le premier élément de l'histoire de l'Ancien Testament est que Jésus est décrit comme le nouvel Israël. Il accomplit le destin d'Israël. Israël était censé être une lumière pour toutes les nations. C'est à travers Israël, Genèse 12, que la bénédiction allait à toutes les nations, mais ils ont échoué, ils ont péché. Maintenant, Jésus apparaît comme le véritable Israël, et il passe le test, et c'est par lui que la bénédiction viendra maintenant, que le salut viendra à toutes les nations. C'est pourquoi Matthieu termine par l'appel à faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi ? Parce que Jésus a réalisé ce qu'Israël et Adam étaient censés faire, mais ils ne l'ont pas fait à cause du péché. Ainsi, la première partie de l'histoire de l'Ancien Testament que Matthieu raconte est que Jésus est le nouvel Israël. Il accomplit le destin d'Israël. Ce qu'Israël était censé faire pour être une lumière pour toutes les nations, Jésus l'accomplit maintenant. Deuxièmement, Jésus est dépeint comme un nouveau Moïse. Or, il faudrait être un lecteur très inattentif pour lire Matthieu 2 et ne pas voir ce qui se passe. Comment Jésus est-il présenté comme un nouveau Moïse dans Matthieu 2? Encore une fois, il ne sort jamais et ne l'appelle pas Moïse, mais qu'est-ce qui dans Matthieu 2 vous amène à penser que Matthieu veut? Encore une fois, ce ne sont que des fils de discussion. C'est comme si Matthieu rassemblait tous ses fils de l'Ancien Testament, toutes ses histoires, les tissait ensemble et montrait comment elles atteignent leur paroxysme en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est le nouvel Israël, mais maintenant Matthieu veut dire qu'il est aussi le nouveau Moïse. Il réalise également et constitue l'idéal de ce que Moïse avait prévu et apporté au peuple. En sauvant le peuple d'Égypte et en sauvant le peuple d'Égypte, Jésus fait maintenant quelque chose de plus grand que Moïse. C'est un nouveau et plus grand Moïse. Comment Matthieu y parvient-il dans Matthieu 2? Ouais, très bien. Remarquez que Jésus se rend en Égypte et que Matthieu cite ce texte. Cela a eu lieu pour accomplir ce qui a été dit dans le prophète, « C'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils ». Ce qui, dans le contexte de l'Ancien Testament, est une citation d'Osée, le prophète Osée. Dans ce contexte, cela fait référence à Dieu délivrant Israël. Israël était le fils de Dieu. Lisez le livre de l'Exode. Dieu appelle Israël son fils. Ainsi, à l'origine, ce texte faisait référence à Dieu sauvant et appelant l'Égypte son fils hors d'Israël. Désormais, en appelant Jésus son fils, Jésus apparaît comme une sorte de nouveau Moïse provoquant un nouvel Exode. Qu'est-ce qui d'autre dans cette histoire vous amène à penser qu'il y a quelques autres choses, que Jésus est décrit comme étant semblable à Moïse, mais plus grand que lui? Bien, oui. Oui, vous ne pouvez pas manquer le fait que Jésus est né et qu'il a été sauvé des tentatives d'un roi étranger de tuer tous les bébés garçons. Revenez en arrière et lisez le livre de l'Exode. Un roi étranger, Pharaon, dans une tentative de traiter avec Israël, a tenté d'exterminer tous les bébés garçons. Et donc, c'est comme si Matthieu essayait d'attirer votre attention et de vous amener à établir des liens avec l'Ancien Testament. Jésus est aussi un comme Moïse. Il échappe à la tentative d'un roi étranger de le tuer, de sorte que, de la même manière que Moïse a délivré et sauvé son peuple, Jésus est maintenant venu pour délivrer et sauver son peuple d'une manière plus grande. Ainsi, Jésus est dépeint comme un nouveau Moïse. Il y en a un de plus, il y en a probablement plusieurs. Jésus est également représenté comme la lumière des nations. L'un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament est le prophète Isaïe. Et ce que Isaïe fait, encore une fois, c'est qu'il aborde le problème d'Israël. Israël est désormais en exil. Isaïe a été écrit pour résoudre le problème de l'exil d'Israël. Et maintenant maintenant Isaïe parle d'un moment où un jour Dieu viendra délivrer son peuple de l'exil et le restaurer. Il établira son royaume. Il le fera, il réalisera une nouvelle création. Et plus encore, Dieu non seulement restaurera son peuple Israël, mais il amènera des gens de toutes les nations à participer à ce salut que Dieu pourvoira à son peuple. Ainsi, Ésaïe est important parce que Ésaïe anticipe une époque où les gentils viendront également adorer à Jérusalem. Ils viendront expérimenter ce salut que Dieu leur pourvoira un jour dans le futur. Maintenant, un passage intéressant, et tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler l'histoire des sages. Ces mages sont avant tout des dignitaires importants. Des dignitaires très importants, des personnes importantes d'un pays païen étranger. Et ils viennent en suivant la lumière de l'étoile. Ils viennent à Jérusalem pour adorer Jésus-Christ. Enfin, finalement Bethléem, mais ils commencent à Jérusalem. Encore une fois, vous avez ces dignitaires étrangers, ces personnalités importantes, des étrangers, des gentils, qui suivent la lumière d'une étoile brillante qui les amène à Jérusalem où ils adorent le roi et lui offrent des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Gardez cette histoire à l'esprit et écoutez Ésaïe chapitre 60. Encore une fois, il s'agit d'une prophétie d'Ésaïe, sur ce que Dieu ferait un jour lorsqu'il apporterait le salut à son peuple, Israël, et le restaurerait. Ils sont en exil, mais un jour, Dieu les restaurera, apportera le salut à son peuple et une nouvelle création et établira son royaume. Il s'agit du chapitre 60 d'Ésaïe si je peux le trouver ici. C'est ici. Je vais juste lire quelques versets. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car les ténèbres couvriront la terre et les ténèbres épaissent les gens, mais l'Éternel se lèvera sur vous et sa gloire apparaîtra sur vous. Les nations païennes viendront à ta lumière et les rois à l'éclat de ton aurore. Levez les yeux et regardez autour de vous. Ils se rassemblent tous. Ils viennent à vous. Votre fils viendra de loin. Votre fille sera portée dans les bras de la nourrice. Alors vous verrez et serez radieux. Votre cœur se réjouira parce que l'abondance de la mer vous sera apportée et que les richesses des nations, les gentils, viendront à vous. Une multitude de chameaux vous couvriront. Les jeunes chameaux de Madian, d'Épha et ceux de Saba viendront. Ces rois étrangers apporteront de l'or et de l'encens et proclameront la louange du Seigneur. Donc ça suffit. Alors, que se passe-t-il dans Matthieu chapitre 2? C'est avec ces rois, j'utiliserai le mot roi. Techniquement, ce ne sont pas des rois, mais ce sont des dignitaires. Avec ces rois, étrangers, suivant cette lumière naissante de l'étoile et venant à Jérusalem et offrant des cadeaux d'or et d'encens et adorant Jésus, essentiellement ce que dit Matthieu, cette promesse de restauration d'Isaïe 60 s'accomplit déjà dans la personne de Jésus-Christ. Le royaume est donc en marche. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir. Cette promesse d'un temps où Dieu, promis par Ésaïe, où Dieu interviendrait et sauverait son peuple et lui apporterait le salut, amènerait une nouvelle création, établirait son royaume, qui est déjà arrivé, et cela est démontré par le fait que vous avez ces étrangers. Des dignitaires, des gentils, voyageant à la lumière de l'étoile et venant adorer à Jérusalem et offrant leurs riches cadeaux en or et en encens. Donc, fondamentalement, c'est une sorte d'Ésaïe 60 qui est racontée et mise en scène et accomplie dans la naissance de Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas seulement une belle histoire de Noël, mais elle a pour but de vous ramener à l'Ancien Testament et de vous faire comprendre que l'histoire de Matthieu est une continuation de l'histoire de l'Ancien Testament. Non seulement l'histoire d'Israël et celle de Moïse, mais aussi l'histoire du prophète Ésaïe d'une époque où Dieu restaurera son peuple. Alors, tu vois ce que fait Matthieu. Bien qu'il enregistre des événements réels, il les conçoit de manière à ce que vous ne manquiez pas l'image. Ce qui se passe avec ces sages n'est pas quelque chose qui constitue une belle crèche, mais cela vise à rappeler le chapitre 60 d'Ésaïe. Voici l'accomplissement d'Ésaïe 60. Dieu agit maintenant dans cet enfant dans la crèche. Dieu agit maintenant pour réaliser la restauration promise qu'il a prédite à travers Ésaïe. Quand les nations viendraient adorer et apporter des cadeaux en réponse à la lumière naissante du salut de Dieu. Donc, Matthieu dit que c'est ici dans cette histoire de la naissance de Jésus-Christ. Il y a d'autres fils que nous pourrions démêler dans le chapitre 2 qui montre encore une fois que Matthieu, c'est comme s'il avait pris tous ses brins de l'Ancien Testament et les avait tout regroupés, montrant comment ils trouvent leur point culminant dans la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez vraiment pas lire l'histoire de Matthieu à moins d'avoir une oreille à l'écoute de l'Ancien Testament. Il faut écouter les deux en même temps. Parce que Matthieu ne raconte pas seulement une histoire distincte, il raconte la suite d'une histoire qu'il suppose que vous connaissez de l'Ancien Testament. Très bien, avez-vous d'autres questions jusqu'à présent sur le récit de naissance, en particulier les chapitres 2 à 4 et leurs fonctions? Très bien, passons à autre chose, nous allons brièvement commencer à parler du premier bloc principal de l'enseignement dans Matthieu. Je n'ai pas l'intention d'en parler tout, nous nous contenterons d'en aborder quelques-uns. Mais le premier est le célèbre sermon sur la montagne, au chapitre 5 à 7. La première chose que vous devez comprendre à propos du sermon sur la montagne est de comprendre un peu son contexte. Vous ne pouvez pas simplement commencer à lire au chapitre 5 et au verset 1. Au lieu de cela, vous devez comprendre plus largement ce qui se passe et, fondamentalement, ce dont nous avons parlé au chapitre 2. Le royaume transformateur de Dieu est maintenant arrivé. Le royaume promis par Isaïe, le salut promis par Dieu est maintenant arrivé dans la personne de Jésus-Christ. Voilà donc le contexte du royaume, ou du sermon sur la montagne. Vous devez comprendre que le sermon sur la montagne est enseigné en réponse au fait que Jésus-Christ a déjà apporté ce royaume tant attendu. Ce royaume puissant et transformateur est maintenant arrivé et maintenant, à la lumière de cela, Jésus commence à enseigner dans Matthieu 5 à 7. Cela fait une grande différence dans la façon dont vous comprenez le sermon sur la montagne. Il ne s'agit pas simplement d'un sermon contextuel que quelqu'un a commencé à prêcher de tête. Mais Jésus suppose, et Matthieu suppose, que tout ce qui s'est passé jusqu'au chapitre 5 est nécessaire pour comprendre les chapitres 5 à 7. Autrement dit, Jésus a maintenant, en accomplissement de l'Ancien Testament, apporté le salut. Il a maintenant agi pour racheter et sauver son peuple. Le royaume puissant, omniprésent et transformateur, est désormais présent et actif dans la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, à la lumière de cela, Jésus commence, Matthieu commence son premier bloc d'enseignement dans Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Maintenant, comment devrions-nous comprendre le sermon sur la montagne? Tout d'abord, ce que cela signifie pour comprendre, c'est que le sermon sur la montagne de Matthieu, dans Matthieu 5 à 7, n'est pas principalement conçu comme un programme visant à transformer la société, et Matthieu n'est pas non plus principalement une manière très courante de traiter Matthieu. C'est que le but principal du sermon sur la montagne est que lorsque vous le lisez, vous réagissiez avec désespoir. Et vous dites, je ne pourrai jamais garder ça. Personne ne pourra jamais faire ça. Et le but du sermon est donc de vous pousser à la foi en Christ et à faire confiance en Jésus pour le salut. C'est donc un peu comme si vous mettiez un étalon et que vous n'étiez pas à la hauteur. Et donc, la seule option est de vous conduire à Jésus. Et en faisant confiance à Jésus pour votre salut, vous réalisez que le sermon est censé vous montrer que je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas vivre une vie suffisamment bonne pour mériter le salut de Dieu. Ainsi, le sermon est simplement là pour montrer que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous échouez, et, espérons-le, pour vous transformer et vous pousser à compter sur la grâce de Jésus et à avoir confiance dans la foi en la provision du Christ pour le salut. Cependant, ce que le contexte suggère, c'est qu'en réalité le sermon sur la montagne est destiné à démontrer comment le peuple de Dieu doit vivre. Ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, ceux qui ont expérimenté l'œuvre puissante et transformatrice du royaume de Dieu, voilà maintenant le genre de vie qu'ils devraient vivre. Donc, je suppose que le sermon sur la montagne n'est pas seulement une éthique pour l'ensemble de la société. C'est seulement pour ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, qui sont entrés en relation avec Jésus-Christ. Il ne s'agit pas non plus d'un outil de mesure pour nous montrer que nous échouons et que nous échouons. Non, il s'agit d'une éthique, d'un enseignement, d'une instruction sur la façon dont le peuple de Dieu qui est entré dans son royaume, qui a expérimenté la puissance transformatrice du royaume de Dieu, doit vivre ainsi. Je pense donc que c'est ainsi que nous devons tout d'abord comprendre le sermon sur la montagne. Il s'agit d'enseigner au peuple de Dieu que Matthieu et Jésus s'attendent à ce que le peuple de Dieu suive dans l'obéissance parce qu'il a fait l'expérience de la transformation du royaume de Dieu. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont expérimenté le règne et la domination de Dieu dans leur vie. Maintenant, le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7 explique comment ils doivent réagir à cela et comment ils doivent vivre à la lumière de cela. Maintenant, le sermon commence par une déclaration très intéressante dans Matthieu 5:17 qui dit, Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. » Et ceci est, dans un sens, une sorte d'introduction au reste du sermon. Maintenant, que veut dire Jésus par là? Habituellement, nous avons interprété cela comme signifiant que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'observer parfaitement. Autrement dit, Jésus est venu pour obéir à la loi et la respecter parfaitement. Il a modelé ce à quoi cela ressemblait de répondre en parfaite obéissance à la loi. Et je n'en doute pas, mais je ne pense pas que ce soit ce que dit Matthieu. Lorsqu'il dit « Jésus n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir », nous devons comprendre le mot « accomplir » de la même manière que Matthieu l'a utilisé dans l'histoire de Noël dont nous parlions. L'idée d'accomplissement est la suivante. Ce n'est pas que Jésus soit venu pour observer parfaitement la loi, même si je suis d'accord qu'il l'a fait, mais ce n'est pas ce que Matthieu souligne. Lorsque Matthieu dit que Jésus est venu pour l'accomplir, l'idée est que l'accomplissement signifie que Jésus est le but de ce que quelque chose indique. Alors, qu'est-ce que cela signifie avec la loi, l'enseignement de Jésus, ce que dit Matthieu quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir », l'enseignement de Jésus est le véritable but vers lequel la loi pointait. L'enseignement de Jésus est la véritable intention de la loi. Donc, le point de vue de Jésus n'est pas cela, et celui de Matthieu ne l'est pas, nous devons donc obéir mot pour mot à la loi mosaïque, mais au lieu de cela, Jésus dit que maintenant mon enseignement dans le sermon sur la montagne est en fait la véritable intention et la vraie intention. But de la loi. Dans la mesure où l'enseignement de Jésus est le but indiqué par la loi, on peut dire que Jésus l'accomplit. Maintenant, pour aller plus loin, à la toute fin de l'évangile de Matthieu, ce qu'on appelle, vous vous souvenez de la grande commission. Que dit Jésus à ses disciples? Baptisez, allez faire des disciples de toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner quoi? La loi de Moïse. Que sont ses disciples pour enseigner aux nations? La loi. Les 10 commandements, les lois des sacrifices, toutes les lois que vous trouvez chez Moïse, que dit Matthieu. Jésus est là pour enseigner tout ce que Jésus leur a commandé. En d'autres termes, le centre de la volonté de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu pour son peuple n'est plus la loi de Moïse, mais maintenant quelque chose de plus grand est venu, quelque chose de plus grand que Moïse est venu, Jésus-Christ. Et maintenant, le centre de la volonté de Dieu pour son peuple ne se trouve plus dans la loi de Moïse, mais dans la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi à la fin de l'évangile, Matthieu dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en leur apprenant à faire tout ce que je vous ai commandé. » Parce que l'enseignement de Jésus est le véritable accomplissement et le véritable objectif de ce que la loi de l'Ancien Testament indiquait. Ainsi, le sermon sur la montagne doit être considéré comme étant la volonté de Dieu pour son peuple. Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont entrés en relation avec Christ, sont entrés dans le royaume et ont expérimenté le règne de Dieu dans leur vie, la puissance transformatrice du royaume, voici comment ils doivent réagir à cela, plutôt que la loi mosaïque. Maintenant rappelez-vous, vous pouvez voir que quelque chose se passe ici. Au début du semestre, nous avons soulevé une question, à savoir que la plupart des groupes juifs se posaient la question, que signifie être le peuple de Dieu? Quelle est la marque d'identification du peuple de Dieu? La plupart des juifs auraient répondu par un certain nombre de choses, mais l'une d'elles aurait été l'obéissance à la loi de Moïse. Et maintenant, Jésus arrive et dit, non, c'est plutôt m'obéir. Mon enseignement correspond à ce que la loi mosaïque indiquait réellement. Ce n'est donc plus la loi mosaïque. Désormais tout tourne autour de la personne et de l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est de cela que parle le sermon sur la montagne. C'est un exemple de l'enseignement de Jésus et de ce que signifie vivre comme le peuple de Dieu qui est entré dans ce royaume, qui a fait l'expérience de ce royaume tant attendu, promis dans l'Ancien Testament, et maintenant réalisé dans la personne du Christ. Mercredi, nous examinerons quelques détails supplémentaires du sermon sur la montagne. Ici le docteur David Messieurson qui présente l'histoire et la littérature du Nouveau Testament, Conférence 7, l'introduction à Matthieu.